histoire du secours en montagne, proposée par Mountain Pass. Mountain Pass, une passerelle entre l'univers de la montagne et le monde de l'entreprise. Learn from altitude.
Learn from altitude, 5 sur 5. Prêt à décoller, c'est parti.
Ce n'est ni à Chamonix, ni à Zermatt ou Courmayeur que l'idée de s'organiser en société de sauvetage bénévole va voir le jour, mais au Salève. Nous sommes à la fin du 19e siècle et l'alpinisme est très en vogue, en particulier dans la bourgeoisie genevoise. Un petit massif qui domine le Léman, la Varappe, mobilise de nombreux amateurs qui viennent s'entraîner pour préparer des ascensions plus sérieuses dans les Alpes, suisses ou françaises. Ce lieu est particulièrement dynamique à cette époque et rapidement, des accidents viennent freiner l'enthousiasme et l'énergie des grimpeurs. Dès 1897, un petit groupe franco-suisse décide de créer la première société des sauveteurs volontaires du Salève. Ce sera surtout la première société de secours en montagne en France. Il faut noter un point important. Genève est un lieu qui a vu se créer le comité de la Croix-Rouge en 1863 sous l'impulsion d'Henri Dunant. Ce précurseur ouvre le grand livre du droit humanitaire. Dunant prône la constitution de
société de secours dont le but serait de faire donner des soins aux blessés en temps de guerre par des volontaires zélés, dévoués et bien qualifiés. Et recommande aux grands de ce monde de se réunir en période de paix pour, je cite, formuler quelques principes internationaux, conventionnels et sacrés. Lequel servirait de base à des sociétés de secours pour les blessés.
Le premier prix Nobel de la paix dit aussi
« Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. »
Ces valeurs vont inspirer les sauveteurs du Salève qui estiment qu'aucune question politique, raciale ou religieuse ne doit entrer en ligne de compte pour aider un blessé. Un des traits majeurs de cette société est le bénévolat. Il s'agit d'une poignée d'hommes qui, aussitôt qu'un accident est signalé, que ce soit dans les rochers, dans les bois ou sur les alpages, accourent immédiatement pour porter secours à ceux qui en ont besoin en quittant leur travail. D'un effectif d'une quarantaine d'hommes au total, les sauveteurs habitent la région du Salève et sont donc à pied d'œuvre. Ils sont tous bénévoles, abandonnant dans l'urgence leur atelier, leur restaurant ou leur champ pour aller porter secours à un blessé, dans des conditions parfois difficiles. Les sauveteurs du Salève ouvrent une nouvelle page de l'histoire du secours en montagne en imposant l'esprit de gratuité.
Quelle est la leçon de ce secours pour vivre la montagne aujourd'hui ?
Learn from altitude.
Blaise Agresti, guide de haute montagne, ancien commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne et cofondateur de Mountain Pass.
Bonjour Blaise.
Bonjour Jessica.
Donc nous sommes à la fin du 19e siècle, les techniques de secours alpin sont à inventer. Donc comment ce petit groupe au Salève, ce petit groupe de franco-suisses s'est organisé ?
Alors c'est vrai que c'est étonnant d'avoir un tout petit massif alpin qui s'appelle le Salève, hein, qui est juste une bosse à côté de Genève avec des parois. On a été les premiers à grimper quand même de manière un peu moderne. On a la Varappe, le mot Varappe vient du Salève en fait. Hein, donc on allait varaper dans le Salève, mais c'est finalement pas une grande montagne. Et pourtant c'est là que va se créer la première société de secours de l'histoire, en tout cas européenne. Pourquoi c'est créé là ? C'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai eu du mal à comprendre au début pourquoi c'était dans le Salève. Et en fait, on est à peine à 10 km de Genève, donc on surplombe la ville de Genève. On est en 1897. Et en fait, on est dans un mouvement, un grand mouvement, inspiré par la création de la Croix-Rouge, hein, par Henri Dunant en 1863, qui lui-même et observé les dégâts de la guerre, notamment lors de la bataille de Solferino quelques années auparavant, a eu cette envie de créer une organisation qui prend soin des victimes de la guerre. Donc c'est la création de la Croix-Rouge. Et cet esprit-là va diffuser à Genève, dans la communauté protestante de Genève, comme un des points centraux de l'histoire de Genève. Sincèrement, je pense que ça a eu un grand impact sur la mentalité de la fin du XIXe siècle à Genève. Donc, logiquement, les gens qui étaient dans ces mouvements et qui étaient aussi des grimpeurs, des varapeurs du Salève, ben finalement, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas créer un premier groupe de gens qui seraient à la fois, qui continueraient de travailler dans leurs entreprises, qui seraient artisans, qui seraient médecins, qui seraient, mais qui se retrouveraient en cas de besoin pour aller porter assistance. Donc, il y a ce premier groupe qui va se créer, constitué autour de certaines personnalités emblématiques. Mais le principe, et c'est ça peut-être le point le plus important de cette histoire, c'est que leur valeur de création de ce comité de secours, c'est la gratuité et la solidarité. C'est ce qui porte, c'est les mêmes valeurs qui ont créé la Croix-Rouge française, qui permet de créer ce premier groupe de secours en montagne du Salève. Et quelque part, ça donne finalement une philosophie qui se poursuit aujourd'hui encore, dans l'esprit du secours en montagne, comme du secours en mer. Les sociétés de secours en mer, c'est la même philosophie, mais elles sont dans cette filiation de la Croix-Rouge à ces sociétés de secours en montagne, secours en mer, et où on met au centre la vie humaine.
La vie humaine, la gratuité, on ne paye pas pour sauver quelqu'un.
Il y a à la fois effectivement l'idée de gratuité qui vient derrière, et surtout que l'esprit de solidarité n'est jamais en relation avec une approche comptable. On n'est pas à vérifier la solvabilité, ou on ne vient pas vérifier si les causes de l'accident sont elles-mêmes
acceptables
ou non. Donc, quelle que soit la nationalité, le sexe, les origines,
la religion, etc. Origines,
et ça, c'est le fondement de la Croix-Rouge. Ben, ça s'applique au secours en montagne, c'est qu'on n'est pas là pour discriminer une situation particulière, mais on est simplement là pour porter secours.
Et alors, j'aurais deux questions. Donc, la première, ça serait donc avec quels objets ils sont allés porter secours aux gens. Donc, c'est plutôt une question d'ordre technique, on va dire. Parce que comment ils ont fait pour aller chercher des gens dans des parois j'ai entendu parler du brancard Lardy. Donc, je ne sais pas, vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus.
Alors, c'est vrai que cette petite société, ils n'ont pas beaucoup de secours à faire, hein, il faut être honnête. Il y a quelques opérations dans l'année. Donc, ils ont beaucoup de temps pour essayer d'inventer. Alors, surtout, il y a des artisans. Il y a notamment ce monsieur Lardy qui va effectivement inventer la première perche. On appelle ça une perche de secours. C'est un traîneau, en fait, mais qui peut être utilisé dans les murs verticaux, qui peut être utilisé avec des cordes. Et on a des photos de ce traîneau de secours. Donc, 1897, juste un peu après, il crée ce premier traîneau de secours qui va en appeler d'autres, qui vont chaque fois s'améliorer. Et en fait, il cherche à trouver des solutions techniques pour remonter dans les parois, redescendre une victime, faire des mouflages, utiliser des systèmes de poulies pour économiser les forces. Et puis, il y a quelques secouristes arrivés à faire des opérations dans des murs très verticaux. Donc, c'est le début du secours technique et ils vont être très, très fortement contributeurs. Il y aura d'autres endroits, Grenoble et Chamonix, il y aura d'autres, notamment après le Piguilhem, il y a sur Grenoble aussi, il y a des gens qui vont essayer de développer, mais on est à l'émergence d'une réponse technique à la mission de secours. Mais ça commence là, dans le Salève.
Donc techniquement, c'est encore des techniques qu'on utilise aujourd'hui. Et la gratuité, si on parle de gratuité, est-ce que c'est toujours quelque chose qui existe dans le secours en montagne? Est-ce que le secours est toujours gratuit?
Alors c'est un débat qui est récurrent. Est-ce qu'un alpiniste qui prend des risques délibérément a droit au secours? C'est un débat qu'on a tout le temps, qu'on a dès qu'il y a un gros événement, donc qui revient sur la table médiatique et politique assez souvent. Le principe en France, c'est la gratuité. La gratuité du premier secours, c'est-à-dire que quand je suis dans la rue et que je me fais une entorse sur un trottoir, ou si je me fais la même entorse avec mes crampons en sortant de l'aiguille du midi, le principe d'équité fait que les mêmes origines d'un accident qui est la perte d'équilibre, quelque part, doivent avoir la même réponse de l'État. Donc le principe de gratuité, c'est un principe général. Et malheureusement, j'allais dire au fil des décennies, il a été grignoté par un certain nombre de choses. Donc la première chose qu'il a grignoté très fortement, ça a été la loi Montagne de 85, qui a dit que tout ce qui relevait des domaines skiables, des stations, était désormais privatisé et facturé.
Donc, pour simplifier, on se fait une entorse
dans une station de ski, estimant que c'est un lieu privatisé, sécurisé, avec un organisme, soit une société communale qui gère le domaine skiable, soit des sociétés privées complètement, estimant qu'il y a un ticket qui est vendu pour une remontée mécanique et qu'il y a des pistes balisées, tous les accidents qui sont sur cet espace-là font l'objet d'une facturation. Donc déjà, la montagne n'était plus un espace de gratuité générale. On avait déjà les domaines skiables, les stations de ski qui faisaient l'objet de facturation de la part notamment des pisteurs secouristes et des sociétés d'exploitation. Donc ça a été déjà un grand changement par rapport à ce qui se passait depuis un siècle et demi, où le principe de solidarité montagnarde avait vécu jusque dans les années 70-80 avec parfois des petites entorses à droite à gauche, il y avait parfois des petites factures qui étaient émises, mais c'était à la marge. Ça, c'est un grand mouvement où on
et
sépare la montagne.
Et c'était quand, cette loi montagne ?
1985. Et là, on sépare finalement la montagne l'hiver et la montagne l'été. Et ça rend des situations paradoxales, parce qu'on se retrouve en haut d'une station à partir en ski de randonnée, on repart dans le domaine de la montagne, c'est gratuit. Si je descends du côté de la station hors-piste, ben, c'est facturé. Donc on a des paradoxes comme ça qui existent aujourd'hui, hein, qui sont la réalité d'aujourd'hui. Ça a été la première le grand coup de canif, hein, dans le principe de gratuité. Le deuxième, ça a été l'émergence aussi de la prise en charge par le médecin, qui lui-même, pour des questions de budget des hôpitaux, etc., ont commencé à facturer parfois des prestations. Et donc, soit les gens sont des assurés sociaux, et donc la prestation d'urgence du médecin qui vient médicaliser en montagne, dans certains départements aujourd'hui est facturée.
Dans certains départements français, pas tous.
Pas tous, tout à fait. Donc il y a des zones comme ça qui ont été, qui sont ambiguës en fait, hein, où il y a ce principe, il est général, donc il est valable quand c'est un outil du service public, c'est-à-dire un hélico de la gendarmerie ou de la sécurité civile qui est engagé avec des pompiers, des gendarmes ou des CRS, on va être dans un principe de gratuité. S'il y a un médecin, bah, ça va dépendre des départements, et si on est sur un domaine skiable, ça sera facturé. Donc vous voyez déjà que la réalité de ce principe de gratuité est quand même déjà beaucoup plus complexe que ce qui n'y paraît.
Et qu'au 19e siècle.
Et qu'au 19e siècle, effectivement, où les choses étaient plus simples, les gens allaient porter assistance. À la rigueur, ils se faisaient payer le casse-croûte en refuge, la nuitée en refuge, s'il y avait un peu de vin. Et voilà, en gros, les factures de la Chamonnière, de la société de secours de Chamonix, des années 30 jusqu'aux années 60, ce sont principalement des dépenses de la caravane qui allait là-haut et qui pouvaient parfois être refacturées au bénéficiaire du secours. Donc il y a eu quand même des factures des coûts réels, mais pas des coûts forfaitaires ou d'autres coûts comme ça peut être le cas dans certains pays. Voilà, donc on avait une sorte d'exception française, parce qu'on est quasiment les seuls au monde à avoir un principe de gratuité. En Suisse, c'est payant. En Italie, c'est devenu payant. C'était pas le cas avant.
Ma question suivante, voilà, de savoir ce qu'il en était chez chez nos voisins européens.
Alors on fait un peu figure de isolé, parce qu'effectivement dès qu'on franchit la frontière côté Suisse, ben, la prestation elle est payante, et elle est payante, c'est assez élevé, hein, les frais de secours. Il y a des systèmes d'assurance évidemment, mais en tout cas le bénéficiaire du secours paye. En Italie, ils ont choisi un système qui est étonnant, c'est que si on n'est pas blessé, on paye, si on est blessé, on ne paye pas. Ils sont partis du principe justement que le premier secours devait être gratuit, et en revanche, si je suis dans une évacuation dite de confort, c'est-à-dire que je ne suis pas blessé physiquement, je paye ma prestation. Donc je vais dans le Val d'Aoste, je suis fatigué, sur le raid, je ne suis pas blessé, eh bien je paierai ma prestation de secours, je fais une chute quelque part, etc. Je suis blessé, je ne paierai pas ma prestation de secours. C'est leur choix.
C'est assez subjectif quand même.
Hyper subjectif, il y a plein d'ambiguïtés, sincèrement, parce que on sait très bien qu'en montagne, on peut vite basculer de indemne à victime. Si on est épuisé, qu'on ne peut plus descendre une montagne, ben, est-ce qu'il faut être secouru ou pas ? Mais en tout cas, c'est leur philosophie. Et en fait, le fait de donner un peu cet esprit-là responsabilise quand même beaucoup les pratiquants. Et je ne suis pas certain que ce soit un mauvais système en réalité, parce qu'on a quand même aussi des abus, il faut le dire. Des gens qui claquent des doigts et puis estiment qu'ils ont droit à un secours au Mont-Blanc, fatigué, une descente en hélicoptère, c'est un peu un taxi amélioré. Et l'avantage de ce genre de système, c'est que ça permet à l'organisation du secours de décider, de manière subjective peut-être, mais en tout cas de décider si oui ou non la situation mérite d'être prise en charge par la collectivité ou pas. Donc c'est un modèle déjà très différent du nôtre. Et ensuite, vous allez en Himalaya ou ailleurs, ben, vous pouvez avoir des factures absolument délirantes de frais de secours, 150, 200 000 euros. Vous allez aux États-Unis, un secours en hors-piste ou dans un parc national, vous pouvez avoir des factures de 50, 60
000
dollars.
Merci Blaise.
Merci à toi Jessica. Relativement simple. Donc on est quand même, il faut en avoir conscience, on est bénéficiaire d'un système extraordinaire, mais c'est valable pour les hôpitaux, pour la sécurité sociale, pour tout un tas de choses. Mais le modèle social, le modèle français issu du pacte de 45, il est applicable à la montagne et il fait qu'on a un système qui est absolument extraordinaire, qui a été fragilisé par ce que j'ai dit, hein, le ski d'un côté et puis la prise en charge parfois du médecin, des factures de médecin, mais qui offre un service extraordinaire aujourd'hui.
Learn from altitude.
Alors la question qui vient derrière peut-être, c'est est-ce que ce système-là, il est rationnel ? Est-ce qu'on utilise bien l'argent public par rapport à ça ? Et là, j'ai plus d'interrogations que d'affirmations. Je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir trois acteurs, pompiers, gendarmes, CRS, d'avoir un système encore un peu départementalisé, avec des ressources qui ne sont pas toujours homogènes au niveau national, fait qu'on a parfois le sentiment de redondance ou de choses pas toujours optimisées. Et je pense que là, il y a un petit chantier pour le futur. C'est si on reste sur un principe de gratuité, principalement, on va dire, il faut absolument que le système qui le met en œuvre soit optimisé sur le plan de la dépense publique et qu'on n'ait pas de redondance, pas de concurrence entre services, pas de corporatisme. Et là, il y a encore un peu de progrès.
Ok. On en reparlera.
Petit message.
Donc, ces hommes au 19e siècle, on va revenir sur le secours du Salef, qui se sont montrés solidaires, sans distinction de classe, de race, de religion, qui ont laissé leurs activités en plan pour aider leurs prochains dans le besoin. Ça nous parle aussi de la solidarité qui existe ou pas dans notre société contemporaine. Mmh. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est à la hauteur de ces hommes du 19e siècle ?
C'est une excellente question. Parce qu'en fait, plus on professionnalise la réponse de secours, plus on déresponsabilise les citoyens de leur devoir d'assistance de voisins, de compagnons de cordée qui observent quelque chose, etc. Donc les gens, ils passent à côté de la crevasse. Il y a le PGHM qui va arriver. Il y a l'État qui va gérer. Il y a le Covid. On attend patiemment qu'on nous donne des masques, etc. On a du mal à se prendre en charge. On a du mal à être résilient et solidaire dans ces situations-là. Donc, peut-être l'ambiguïté principale à avoir professionnalisé le secours, c'est que ça a beaucoup déresponsabilisé de la citoyenneté et de la solidarité qui doit nous animer en permanence. En tant que pratiquant de la montagne, on se doit de porter assistance en cas de difficulté d'un compagnon et ne pas faire qu'un coup de téléphone au secours. Et pour revenir à l'esprit du Salève, à l'esprit d'Henri Dunant, de la Croix-Rouge, il y a ces sociétés de bénévoles encore de secours. Hein. Il existe encore quelques sociétés de secours bénévoles qui vivent gratuitement, qui ont un métier à côté, qui ne se font pas payer pour leurs prestations de secours. Et je pense qu'il faut qu'on leur laisse une place de nouveau plus forte. On a besoin de raviver en ces périodes de terrorisme, de menaces, d'incertitudes plus générales. On a besoin de raviver le tissu citoyen pour que les gens fassent du secourisme, soient capables de porter assistance, y compris au travail, y compris sur la voie publique, et ne pas toujours attendre que l'État fasse le job à la place de chacun de nous. Donc peut-être le message de nos anciens de la société du Salève, c'était de dire soyons des citoyens engagés et responsables, y compris pour faire vivre l'esprit de solidarité.
Oui, oui, puis pour venir en aide à nos voisins et être
pas
là.
Pas toujours attendre que la solution vienne d'ailleurs. Mmh. Et en fait, peut-être, je l'ai d'ailleurs dit parfois dans des interviews à l'époque où je dirigeais le PGHM, c'est effectivement peut-être le plus grand bémol à la création d'une unité comme celle-là, c'est le fait que ça a concentré l'esprit de solidarité sur une unité et que ça a enlevé la possibilité à d'autres de le vivre et de l'exprimer. Parce que finalement, on est toujours là, un super-héros de la montagne a débarqué, a sauvé, etc. Les gens sont très attentistes. Et en fait, par rapport à ce qu'on disait sur Ötzi, sur le fait que ce qui a fondé l'esprit montagnard, c'est l'adaptation et la solidarité, en professionnalisant trop le secours, on enlève cette part d'esprit de solidarité qui peut nous manquer demain sur des crises importantes, sur des grands événements. On sera peut-être bien démunis, on ne pourra pas demander au PGHM de tout traiter. Plus tu concentres, tu centralises et tu donnes à l'État la plénitude des pouvoirs, plus tu laisses le citoyen dans une position attentiste.
Tout à fait.
Et les crises qu'on va vivre demain, climatiques, d'énergie, même sociétale au sens plus large, parce qu'il y a quand même pas mal de sujets qui vont nous ressortir, nous rendent très dépendants.
Tout à fait, et vont nous demander quand même d'être plus présents qu'aujourd'hui, d'être présents à nos vies.
Et donc dans le modèle notamment de réponse de l'État aux grandes crises, à la sécurité civile, etc., il faut que l'État, et la crise du Covid, c'est ce qu'elle nous dit, il faut qu'elle pense la gestion de crise différemment. Ce n'est pas l'État qui réponde tout le temps, voilà. Non, c'est comment l'État est un facilitateur, un animateur d'une réponse plus large qui s'appuie sur la société civile, sur les entreprises, sur l'État, mais pas que l'État. Et ça, c'est une mutation culturelle qu'on est encore loin du compte. Donc, il va falloir qu'on pense différemment la réponse à ces sujets. Et la gratuité, finalement, elle questionne toute cette manière de se faire assister ou pas y compris en montagne.
Et donc Blaise, si, ce qui veut dire que si moi je décide d'aller secourir quelqu'un dans le glacier d'Argentière à la place du PG ou avant que le PG n'arrive, qu'est-ce qui se passe au niveau des lois ? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ?
Oui, bien sûr. D'abord, on n'a pas le droit, on a le devoir de porter assistance. Ça, c'est fondamental. La non-assistance à personne en danger, c'est un délit. Donc, de ne pas porter assistance, c'est une faute. Voilà, donc ça, c'est déjà une première chose. Tu as l'obligation d'y aller s'il ne fait pas beau, si le PGHM ne peut pas venir. C'est une obligation, ça, il faut quand même que tout le monde l'entende. La deuxième chose, c'est que si par exemple, ça se passe mal pour toi, on ne peut pas le souhaiter, évidemment, mais si tu as un accident en train de faire le secours, l'État te protège. Il y a un statut qui a été créé depuis très très longtemps, qu'on appelle collaborateur occasionnel du service public. Et si quelqu'un dans une situation d'urgence venait à intervenir sur un incendie, sur une catastrophe, etc., et venait à décéder ou à être blessé, l'État a pour devoir de le protéger. Il y a un statut qui te permet de devenir presque fonctionnaire le temps où tu agissais pour être protégé dans cette situation exceptionnelle. Donc c'est un dispositif qui a été très très précisé par la loi. Et donc vas-y, tu peux aller au fond de la crevasse, porter assistance si le PGHN ne peut pas venir et si tu as les compétences pour.
J'y cours. Voilà. Okay. Merci Blaise.
Merci.
Learn from Altitude, un podcast produit par Mountain Pass et réalisé par Globule Radio. Scénario, Jessica Compois. Mixage, Kirstine Mackenzie. À découvrir l'ouvrage illustré, Une histoire du secours en montagne, imprimé aux éditions Glénat.